On rejoint maintenant Martin Allonde, agent de défense collective des droits chez Execo. Bonjour, M. Allonde.
Oui, bonjour, Mme Pellerin. Merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui.
Ça fait toujours plaisir de vous recevoir chez Execo. Vous êtes quand même des amis de longue date du CanalM, mais je voulais parler plus précisément avec vous de la crise du logement actuel qui sévit à Montréal et un peu autour de Montréal. Évidemment, là, on a peu de logements abordables qui sont disponibles. J'imagine que ça épargne pas les personnes en situation de handicap, étant donné qu'il doit y avoir aussi peu de logements qui sont accessibles.
Oui, ben, en effet, les personnes en situation de handicap sont confrontées à une double crise en matière de droit au logement. À la crise de l'abordabilité qui affecte la population en général, s'ajoute la crise permanente du manque de logements accessibles. Vous avez simplement à marcher dans la rue pour le constater. La très grande majorité du vieux cadre bâti est totalement inaccessible pour des personnes qui utilisent une aide à la mobilité comme un fauteuil roulant. Il y a présence d'escaliers pour accéder au logement, des cadres de portes ou des corridors trop étroits, par exemple. Donc, les immeubles de 4 étages et plus doivent maintenant être munis d'un ascenseur, mais la plupart de ces immeubles sont plus récents, donc plus chers. Donc, trouver un logement qui est à la fois abordable et universellement accessible sur le marché privé devient super difficile. Il y en a dans les logements sociaux et communautaires, mais d'abord, faut y être admissible.
Oui.
Et la quantité des logements existants est insuffisante pour permettre de répondre aux besoins qui explosent, notamment en raison du vieillissement de la population.
Et vous l'avez dit, hein, c'est une double crise dans l'optique où, évidemment, là, quand on n'a pas de situation de handicap, c'est déjà difficile. Là. En plus, avec une situation de handicap, ça prend des aménagements qui sont particuliers, mais ça prend aussi un certain budget. Et les personnes en situation de handicap, malheureusement, sont plus enclins à être en situation de pauvreté ou en situation de revenus faibles. Donc, dans un cas comme ça, c'est un double tranchant, finalement. On ne s'en sort pas ni d'un côté ni de l'autre.
Oui. Et en fait, aussi, les personnes en situation de handicap sont beaucoup plus susceptibles de se retrouver en situation d'itinérance. Il y a une enquête qui a été menée en 2024 par le Bureau de la Défenseure fédérale du logement puis la Commission canadienne des droits de la personne qui révèle que les personnes en situation de handicap sont 4 fois plus à risque de se retrouver en situation d'itinérance et 2 fois plus susceptibles de se retrouver en situation d'itinérance cachée. C'est en raison du manque de logements accessibles et abordables. Ça nous apprend aussi que 53 % des personnes en situation de handicap qui ont connu l'itinérance ont déclaré que c'était après avoir subi de la violence.
Ah, ouais.
Comparativement à 36 % des personnes sans incapacité. Au Québec, il y a l'Office des personnes handicapées qui a publié en 2024 un constat similaire. 51 % des femmes ayant une incapacité ont vécu une situation de violence de la part d'un partenaire intime, comparativement à 35 % des femmes sans incapacité. C'est chez les plus jeunes que la situation, c'est le pire. C'est 60 % des femmes entre 18 et 34 ans ayant une incapacité qui ont subi de la violence de la part d'un partenaire intime.
C'est énorme. C'est plus de la moitié. Hein.
C'est 6 sur 10. Comparativement, 32 % des femmes du même âge sans incapacité. L'étude n'explique pas pourquoi c'est les plus jeunes qui sont le plus touchés, mais on peut présumer que c'est parce que les plus jeunes ont moins de marge de manœuvre au niveau financier.
Oui.
Les personnes plus âgées, des fois, vont avoir peut-être eu des économies ou avoir un plus gros réseau de contacts. Mais les plus jeunes n'ont pas cette marge de manœuvre-là, donc n'ont pas la possibilité de payer un loyer plus cher, par exemple, pour se sortir d'une situation de vulnérabilité envers un partenaire. Il y a une autre étude aussi, cette fois du Centre canadien pour le droit au logement, qui démontre que les personnes en situation de handicap sont 316 % plus susceptibles de subir une agression de la part de leur propriétaire ou d'un de leurs représentants.
316 % quand même, là, donc...
Oui, c'est 3 fois plus à risque
de subir
une agression.
Bien, ça montre en fait que comme société, là, au niveau du filet social pour les personnes en situation de handicap, là, on a un bon trou, là.
Oui. Donc, c'est ça, c'est le constat, c'est que la majorité des personnes en situation de handicap qui se retrouvent en situation d'itinérance le sont à cause de la violence qu'elles subissent au quotidien. Il y a de plus en plus de personnes qui se retrouvent en situation d'itinérance visible ou cachée. D'autres demeurent dans des logements insalubres ou qui ne sont pas adaptés à leurs besoins. Elles dépendent donc de leurs proches pour simplement, par exemple, descendre les escaliers pour sortir de chez elles. Ou ben trouvent pas d'autre choix que de rester ou de retourner vivre dans des endroits où elles subissent de la violence.
Puis évidemment, l'état de dépendance, donc d'être dépendant de quelqu'un là, pour descendre les marches, pour avoir accès à tes soins, par exemple, ça te maintient dans une situation de violence. C'est beaucoup plus difficile de s'en sortir quand on n'est pas un homme, évidemment.
En fait, ça maintient les personnes dans des situations de vulnérabilité.
Oui.
Envers des proches par exemple, les personnes n'oseront pas contester des augmentations de loyers abusives parce que soit la personne a attendu des années pour avoir des adaptations dans son domicile ou encore, elle est en attente pour en avoir, ça fait des années qu'elle attend et le propriétaire peut à tout moment retirer son autorisation.
Oui, OK, oui, donc effectivement, le propriétaire ici a le gros bout du bâton, là.
Oui, donc théoriquement, ils n'ont pas le droit de le faire, à moins qu'ils démontrent que ça pose une contrainte excessive, mais même dans ce cas-là, il faut que la personne se retourne vers le tribunal administratif du logement, ce qui implique des délais.
Oui, ce qui implique des délais, ce qui implique évidemment il y a des problèmes au niveau de la charge mentale, hein, de monter un dossier et tout ça, et puis de devoir faire la preuve d'un abus. Donc, effectivement, là, j'imagine que les personnes, malheureusement, elles trouvent ça plus facile de ne rien dire. Parlez-nous quand même, vous avez parlé d'itinérance cachée. Là, pour ceux qui ne seraient pas au courant du terme itinérance cachée, qu'est-ce que ça implique?
L'itinérance cachée, ça peut être une personne qui soit perd son logement ou doit le quitter pour fuir une relation toxique, par exemple, va se retrouver chez des proches.
Oui. Okay.
Nous, on a des situations où une personne avec son enfant s'est retrouvée chez un ami dans un 3,5.
Oui, donc c'est
dans
pas...
un logement qui n'était pas accessible. Donc, c'est pas l'idéal. Donc, ça peut être des fois de se promener d'un ami à l'autre comme ça. Ça peut être habiter dans sa voiture. Ça peut être des personnes pendant l'été qui vont habiter dans une tente. Ça peut être plein de situations comme ça.
Oui. Au niveau, évidemment, d'avoir du matériel adapté dans ces cas-là, on s'entend bien. Quand on habite dans une voiture ou dans une tente, c'est difficile d'avoir du matériel adapté puis de répondre à des besoins quand on a besoin de matériel adapté, bien sûr.
Oui.
Et on parle aussi beaucoup dans les dernières semaines donc de la privatisation des aides au logement, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes au privé qui disent construire des logements pour aider la crise en itinérance dans des gros promoteurs privés. Est-ce que c'est GECO, vous pensez que c'est la solution de se tourner vers le privé pour répondre à la crise du logement?
En fait, on a été un peu étonnés de voir cette proposition-là. Ça nous fait l'effet un peu des pompiers pyromanes. Donc des personnes qui ont créé la crise qui proposent de la régler.
Oui, c'est tout à fait ça. Là.
Le lifeguard qui pousse une personne qui est incapable de nager dans une piscine puis qui se vante de
l'avoir sauvé.
De la sauver après. Ouais. En fait, il y a plusieurs problématiques dans cette proposition-là. De un, ils veulent construire des logements pour... Il y a l'idée des bons versus les mauvais itinérants, si on veut.
Oui.
Donc, les personnes qui se retrouvent à la rue parce qu'ils sont pas capables de se trouver un logement, qu'ils sont capables de se payer, pour les personnes en situation d'handicap, c'est un logement qui est à la fois accessible et capable de se payer. Ça s'appelle des logements sociaux, des coopératives ou des logements qui sont réellement abordables que ça prend pour ces personnes-là. Il y avait déjà ça qu'on trouvait un peu étrange au niveau de la question que le privé mentionne pouvoir construire moins cher. En fait, c'est ce qu'ils demandent, c'est que la ville donne un terrain, que le projet soit approuvé rapidement, qu'il n'y ait pas autant toutes les étapes, tous les délais, qui vient avec les projets de logements sociaux communautaires, ben, si on donnait les mêmes avantages aux promoteurs, aux organismes qui développent des logements sociaux communautaires, ben, ça coûterait vraiment beaucoup oui. moins cher. Une grosse partie du surcoût des logements sociaux communautaires, c'est les délais. Les délais pour obtenir un terrain, obtenir l'autorisation, obtenir le financement. C'est une des premières raisons qui explique que les logements sociaux communautaires coûtent plus cher. Donc, si on donnait les mêmes avantages que ce que les promoteurs privés demandent, ben, ça réduirait les coûts énormément. Puis, une autre raison, c'est que les logements sociaux communautaires ont des normes plus élevées en matière d'accessibilité, d'une part, puis au niveau de l'efficacité énergétique, d'une autre part. Donc, en fait, ça coûte moins cher construire un logement si tu mets des fenêtres de mauvaise qualité. Mais si on regarde au niveau de la durée de vie du bâtiment, en fait, pour les organismes, ça revient moins cher à la longue. Si ça te coûte un peu plus cher construire un immeuble, mais que par la suite, ta facture d'électricité est moins chère pendant 50 ans, dans le fond, en bout de ligne, on regarde à moyen puis long terme, ben, ça revient moins cher. Les promoteurs privés, quand on construit un condo, le condo, tu le vends, puis si les fenêtres sont à refaire dans 20 ans, c'est pas ton problème.
Oui, effectivement.
Et la facture d'électricité, c'est pas eux qui la payent, c'est les locataires. C'est une des raisons que nous, on trouve que c'est souhaitable que les normes d'accessibilité et d'efficacité énergétique soient plus élevées. C'est dans l'intérêt à la fois des locataires, mais de la population en général à moyen puis long terme. Puis un peu la même chose au niveau de l'accessibilité. Le fait d'avoir des normes plus élevées au niveau de l'accessibilité, ça coûte moins cher à long terme parce que de le faire dès le départ, ça coûte au moins 8 fois moins cher que de le faire par la suite.
Oui, c'est bien dit. Merci beaucoup de nous avoir éclairé sur cet enjeu-là et aussi sur votre vision de la crise du logement là, pour les personnes en situation de handicap. Bien sûr, Execo va nous tenir au courant là, des différents enjeux. Merci d'avoir été avec nous.